Vous êtes sur RTL.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
La maladie d'Alzheimer, c'est la journée mondiale aujourd'hui. Nous sommes avec Véronique. Bonjour.
Bonjour Pascal.
Vous êtes concernée directement par cette maladie ?
Non, j'ai travaillé en EHPAD et j'ai vu ce qui se passait. Et moi, j'ai un papa qui a une tumeur au cerveau, donc c'est moins d'errance. Mais j'imagine ce que ça doit être quand on a une famille, dans la famille, quelqu'un qui est atteint. Ça doit être terrible.
Le rappel des titres avec Amandine.
Et à la une, un adolescent de 17 ans, toujours en garde à vue ce midi au Lila en Seine-Saint-Denis. Il est soupçonné d'avoir tué un autre jeune hier soir, j'ai lui de 16 ans, d'un coup de couteau dans la poitrine. C'est une info RTL. La gare du Nord ne sera finalement pas transformée en centre commercial. La SNCF a décidé d'abandonner le projet. Le salaire des fonctionnaires, lui, sera revu à la hausse. Ceux qui gagnent le moins vont toucher 37 euros de plus dès le 1er octobre. C'est la conséquence directe de l'augmentation du SMIC qui est prévue le mois prochain. Et puis on vous parlait ce matin de ces services publics fermés à Cavaillon dans le Vaucluse après une fusillade qui avait lieu au mois d'août dernier. Étienne Baudu, bonjour, on vous retrouve sur place pour RTL. On a appris qu'une nouvelle fusillade avait eu lieu aujourd'hui.
Une fusillade qui aurait éclaté aux alentours de 11h. Une opération de police est en cours actuellement. Des élèves d'écoles situées à proximité seraient ou auraient été confinés. C'est donc dans cette cité du docteur M, une guerre de territoire qui n'en finit pas entre bandes rivales. Hier soir, la police avait interpellé deux hommes soupçonnés d'avoir voulu commettre de nouvelles violences pour prendre le contrôle d'un point de deal situé près du city-stade de cette cité du docteur M, où donc des coups de feu ont encore éclaté ce matin.
Étienne Baudu en direct de Cavaillon pour RTL. Petit coup d'œil à votre météo. On a eu un peu froid, faut le reconnaître, Peggy, ce matin. Ce sera bien mieux cet après-midi.
Oui, à signaler à Amandine un nouveau record de fraîcheur d'ailleurs ce matin pour un mois de septembre. Avec 7 degrés relevés à Attain dans le Pas-de-Calais, c'est même descendu à 5 degrés à Doullens dans la Somme. Oui, mais les températures vont bien remonter, surtout au nord cet après-midi avec le soleil. Et même ailleurs, ça remonte. 18 à Langres, 19 à Lille, 20 à Paris, Limoges, Toulouse, 21 à Brest et Lyon, 24 à Nice, 26 à Montpellier, jusqu'à 27 degrés à Ajaccio. Côté ciel, donc on inverse la carte, c'est du soleil au nord, vous l'avez dit, ça se dégage bien sur toute la moitié nord. En revanche, ça reste nuageux sur la moitié sud, avec quelques rares averses possibles ici et là. Et sur les Pyrénées, un ciel encore bien couvert comme ce matin, avec des averses plus marquées et même quelques petits flocons au-dessus de 2200 mètres. Ce sont les premières neiges sur les Pyrénées. C'est pas grand-chose, mais bon, à signaler. Et puis, près de la Méditerranée, là, un ciel un peu plus mitigé entre nuages et éclaircies. Quelques gouttes possibles du côté de Marseille cet après-midi.
Et demain, du grand beau pour tout le monde.
Voilà, comme ça, pas de jaloux. Et ce qui est pas mal pour le premier jour de l'automne demain, quelques brumes et grisailles matinales vers le centre, le Lyonnais, la Garonne, la Bretagne. Mais ça va très vite se dissiper. Le soleil va s'imposer. Dans l'après-midi, un ciel un peu plus voilé au nord de la Loire, mais l'impression restera très belle. Il pourrait y avoir très localement quelques poches de grisailles sur le Nord-Bretagne, les côtes de la mer du Nord également, un peu plus de nuages sur les Pyrénées et du grand bleu partout ailleurs. Il faudra juste se couvrir parce que pareil, les températures vont encore baisser demain matin. Donc on met plusieurs couches qu'on va pouvoir enlever
l'automne.
Après. Exactement.
Il fait un peu frais le matin et quand le soleil brille, il fait un petit peu plus chaud et c'est le principe.
Tout compris, alors vous mettez plusieurs couches. Vraiment frais demain matin.
Pascal, vous mettez plusieurs couches ?
Non, je ne mets pas plusieurs couches.
Vous en avez déjà au moins deux là que je peux voir.
Voilà. Demain matin, 4 degrés. Cette intimité.
Je crois que tout le monde peut voir. 4 degrés à Reims et 9 vers 5 à Orléans. 9 à Lyon, 10 à Paris, 11 à Bordeaux, 17 à Nice.
Il fait frisquet,
exactement. Mais le soleil va réchauffer tout ça dans la journée.
Aussi.
Et ça va remonter. On va même gagner par rapport à aujourd'hui 1 ou 2 degrés. Vous voyez,
parce qu'il y a du soleil,
vous avez tout compris. Donc de 20 degrés à Cherbourg à 27 à Marseille, 21 à Nancy, 23 à Paris et Limoges, 25 à Toulouse et Perpignan.
Merci Peggy.
Merci Amandine. Il est 13h04, on parle d'Alzheimer.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
C'est la journée mondiale, on a beaucoup de questions forcément. On attend un traitement, est-ce qu'on pourra guérir d'ici 10 ans? On en parlait avec Bruno Dubois, on est avec Véronique qui était assistante de direction en EHPAD et qui a été confrontée, qui a vu les malades et la très grande difficulté de ces personnes-là. On se demande toujours d'ailleurs, est-ce qu'elles ont... Ou on se demande pas d'ailleurs, mais on se dit, est-ce qu'elles ont un brin de conscience de la situation dans laquelle elles sont?
Au départ, Au départ, il y a une conscience, mais il y a un déni en même temps, parce qu'on sait que c'est une maladie terrible. Donc il y a un déni aussi bien de la part du malade que de la famille. Et puis, les soignants, effectivement, au bout d'un moment, se rendent compte que bon, il y a des choses qui sont absolument pas normales, quoi. On retrouve les chaussures dans le lavabo. Enfin, voilà, il y a des choses qui sont. Et là, on se dit, bon, effectivement, le diagnostic est posé. Mais après, effectivement, il faut arriver à ce que la famille accepte. Donc le souci qu'il y a, c'est qu'en EHPAD, vous avez deux unités, vous avez les unités ouvertes, les unités sécurisées. Donc quand un malade est diagnostiqué Alzheimer, il faut le passer en unité sécurisée, ça, il faut le changer de chambre, donc il faut le changer d'environnement, de soignant, de voisin. Donc déjà, ça les perturbe. Et la famille a beaucoup de mal parce que c'est accepter le diagnostic et le poser et prendre les décisions. Donc on a régulièrement des malades qui déambulent, qu'il faut surveiller, qui des fois se retrouvent à sortir des EHPAD parce que les EHPAD n'ont pas tous effectivement des portes avec des codes pour sortir l'extérieur, maintenant de plus en plus. Et c'est terrible, quoi. Donc au départ, c'est terrible pour le malade et la famille, et après, c'est terrible pour la famille et les soignants. Et puis même en unité sécurisée, c'est très difficile de les occuper, c'est très difficile d'éviter les crises, parce qu'ils deviennent assez agressifs, certains. Donc il y a des crises, donc c'est une maladie qui est horrible, quoi, qui est vraiment, les gens qui le vivent, c'est extrêmement difficile. Moi qui l'ai vécu de près en étant assistante sur différents malades, on peut constater que bon, ils réagissent plus ou moins de la même manière, même si c'est à des degrés différents. Moi j'ai dit à mes enfants, si un jour je suis comme ça, si un jour je ne vous reconnais plus et je ne peux plus communiquer avec vous, vous m'emmenez en Suisse et vous faites ce qu'il faut. Je n'ai pas question qu'on paye 3000 euros des pas par mois pour que je ne vous reconnaisse plus, que vous souffriez, que moi je m'en rende
mais
pas
c'est
compte.
C'est drôle ce que vous dites, si j'ose dire, Véronique, tout le monde dit ça, mais c'est quasiment impossible à faire. Bah, on ne peut pas le faire. On ne peut pas prendre quelqu'un qui est en bonne santé physique, c'est-à-dire dont le cœur fonctionne normalement, dont la motricité peut fonctionner normalement, vous ne l'emmenez pas en Suisse comme ça pour le tuer.
Il y a des gens qui le font, mais ceux qui font sont sains d'esprit. C'est-à-dire qu'en fait, le problème d'Alzheimer, c'est qu'en fait, à un moment donné, on n'est plus sain d'esprit. Donc en fait, il faut pouvoir anticiper quand on est sain d'esprit, en disant voilà, quand il y aura tel et tel symptôme, je veux que... Parce qu'il y a des gens qui vont en étant sains d'esprit, en prenant même la décision d'y aller, effectivement, de
dans des maladies incurables.
Non, moi je connais quelqu'un...
Vous connaissez des gens qui n'ont pas de maladie incurable et qui vont en Suisse pour mourir ?
Oui, qui l'a fait. Bon, les trois enfants derrière ont été suivis par des psychiatres parce qu'effectivement les enfants ont eu du mal à comprendre.
Bah oui, quel âge il avait ?
72 ans, il estimait qu'il avait fait ce qu'il avait à faire dans sa vie et qu'il n'y avait plus d'intérêt à rester. Donc vous imaginez pour les enfants derrière.
Enfin, mais vous convenez que c'est le cas que
ah,
vous...
Ah non, c'est très... Oui, c'est...
Que vous citez est assez rare.
C'est surprenant et c'est dur pour les enfants.
Bon, merci Véronique. On va marquer une première pause et on va être avec Christelle Bardet qui a écrit « Quand maman plantait des brosses à dents ». Je ne sais pas pourquoi ce titre et c'est la première question que je vais lui poser dans un instant. Elle raconte les dures années où elle a dû affronter la maladie de sa mère, atteinte d'Alzheimer, un accompagnement qui aura duré 14 ans. A tout de suite.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Et RTL s'associe à la Fondation pour la recherche médicale. Pour faire un don, rendez-vous sur frm.org ou envoyez un SMS au 92 300 pour faire un don de 10 euros directement prélevé sur votre facture téléphonique. Nous sommes donc avec Christelle Bardet. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous avez donc écrit « Quand maman plantait des brosses à dents » aux éditions Plomb. Pourquoi ce titre ?
En fait, je n'ai rien inventé puisque c'est une création propre à ma maman qui, au début de sa maladie, lorsqu'elle était encore maintenue à domicile, avait comme activité principale de planter des brosses à dents dans ses balconnières. Alors, c'est bien symbolique en fait de la maladie, de la confusion que les malades peuvent faire, puisqu'une brosse à dents dans sa forme peut faire penser à des fleurs. Et c'est bien symbolique aussi du chemin parcouru par les dents, car moi, ma première réaction, ça a été de m'énerver et de les enlever. Et puis finalement, au fil du temps, de trouver cela poétique et assez agréable à regarder.
Quelle âge avait votre mère lorsque vous êtes aperçu qu'elle souffrait de la maladie d'Alzheimer ?
Alors, elle a été diagnostiquée à 57, mais elle a été, on a perçu les premiers symptômes, oui, quelques années auparavant, qu'on avait mis sur le compte d'une dépression liée au décès de mon père, donc son mari. Et souvent, les premiers signes sont dans cette confusion-là, parce qu'il y a régulièrement des terrains dépressifs, et on se dit, ah, bah, c'est le chagrin, c'est la peine, etc. Mais quand il y a des choses très insidieuse, très pernicieuse, parce que c'est vraiment le principe de cette maladie. Elle se glisse, elle se niche dans des tout petits détails au départ. Et il faut savoir les déceler pour être capable de diagnostiquer au plus vite.
57 ans, c'est très très jeune. Hein.
C'est extrêmement jeune, surtout que c'était une femme dynamique, très drôle, donc qui a mis beaucoup d'énergie à masquer et à faire des pirouettes pour cacher tous ces petits travers qu'elle devait elle-même un peu percevoir.
C'est ça qui est intéressant aussi, c'est la conscience de celui, ou pas d'ailleurs, de celui qui souffre de la maladie. À quel moment elle s'est rendue compte qu'elle souffrait de ça ?
Alors, ça n'a jamais été vraiment formulé comme cela. Il faut aussi savoir que nos malades oublient qu'ils oublient. C'est un symptôme de la maladie. Eux, ils n'ont absolument pas conscience qu'ils ont oublié. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a des situations assez cocasses avec des malades qui vont répéter la même phrase, faire la même activité, répéter. L'aidant va s'épuiser à lui expliquer, à le raisonner. C'est quelque chose qui ne fonctionne pas parce que ce sont des malades qui oublient qu'ils oublient. Et on ne gagne jamais à ce jeu-là à essayer de les raisonner. Parce que comme eux, ils ont oublié, ils sont plus forts que nous.
Vous avez accompagné votre mère pendant 14 ans et vous écrivez « Je me suis sentie seule aussi parce que le système fait qu'il n'y a aucun accompagnement pour ses aidants ».
Alors, Dieu merci, les choses ont quand même évolué depuis. Moi, j'ai aussi rencontré l'association France Alzheimer, voilà, que je conseille à toutes les personnes qui traversent cette épreuve, parce qu'ils sont là aussi pour vous donner des clés, ils peuvent former les aidants. On n'est malheureusement pas... la maladie ne nous est pas livrée avec un mode d'emploi, et il faut apprendre certaines clés. C'est vrai qu'il ne faut pas rester seul, et il faut aller auprès de ces associations qui font un travail formidable auprès des familles.
Et j'ai l'impression,
et les aidants notamment.
J'ai l'impression qu'il y a plusieurs temps dans cette maladie. Il y a un premier temps où le malade reste autonome, il peut rester chez lui et vivre normalement. Et puis il y a un temps où ce n'est plus possible. Est-ce que ça s'est passé comme ça pour votre mère ?
Oui, ça s'est passé comme ça. Alors après, il faut savoir qu'il n'y a pas, pour moi, hein, l'expérience que j'en ai, il n'y a pas deux malades pareils. Il n'y a pas deux malades d'Alzheimer pareils. On a évidemment des traits communs, mais chaque malade a son histoire, ses peurs, et qu'on retrouve sa personnalité, qu'on retrouve aussi dans le déroulement de sa maladie. Donc oui, il y a un maintien à domicile. On joue tous à cette course au maintien à domicile qu'on tient absolument à préserver. Hein. On a aussi l'injonction sociale et morale où on dit on ne place pas ses parents, ne place pas son conjoint, jamais on ne fera ça. J'entendais la personne précédente délivrer un message assez brutal à ses enfants, mais voilà, c'est bien symbolique de la peur et parfois un peu du manque d'informations, parce que non, on ne prend pas quelqu'un par la main pour l'emmener en Suisse, ça ne marche pas comme ça. Et j'adoucirais aussi le discours de la personne précédente en disant non, ce n'est pas qu'une maladie épouvantable. Oui, c'est très dur. Oui, c'est très difficile, mais on a aussi des moments heureux. Et on a, et jusqu'à la fin, où moi, ma mère était dans un état gravataire absolument épouvantable, ne pouvant plus parler, nous avons eu des moments intenses et merveilleux et heureux comme jamais. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai écrit ce livre, pour donner comme message aux gens qui passent cette épreuve, vous pouvez être malade d'Alzheimer et être heureux. Et ça, c'est important.
C'est ça qui est tout à fait étonnant lorsque j'entends parler un fils, une fille de son père ou de sa mère Alzheimer, c'est de dire qu'il y a une communication, même lorsqu'il ne vous reconnaît plus. Malgré tout, il y a un échange, et je parlais tout à l'heure de Julien Courbet qui avait communiqué lorsque sa maman était décédée et qui parlait sur Twitter en l'espèce de cette relation si particulière. On a du mal à la comprendre, pour tout dire, Christelle Bardet, de ces moments heureux dont vous parlez, avec une mère peut-être qu'il ne vous reconnaît plus dans les derniers moments ou les dernières semaines de sa vie.
Ce n'est plus la communication comme on l'entend, ce n'est plus verbalisé, mais on réapprend de nouveaux gestes, on réapprend une douceur, on apprend à communiquer avec des caresses, avec des regards. Et voilà, moi jusqu'au bout, il y a eu une étincelle, il y a eu beaucoup de joie, même jusque dans ces derniers jours.
J'imagine que vous avez beaucoup eu d'informations sur cette maladie et notamment sur la manière dont elle se déclenche. Est-ce que c'est conjoncturel en fonction de la vie qu'on peut avoir, ou est-ce qu'au contraire c'est génétique ? Est-ce que ceux à qui vous posiez ces questions, j'imagine, vous ont apporté des réponses ?
Alors, des réponses, on en a. Génétique, de toute façon, c'est une maladie qui n'est pas héréditaire dans plus de 99,9 des cas. Professeur Dubois vous en parlerait évidemment bien mieux que moi. Voilà, après, des facteurs déclenchants, à moins de se préserver et d'avoir les bonnes règles en amont d'exercice physique et de bonne nourriture et d'avoir une vie sociale bien remplie, il n'y a pas de recette, hélas. Il n'y a pas de recette.
Ben merci pour ce témoignage et je rappelle votre livre « Quand maman plantait des brosses à dents » aux éditions Plomb. C'est un accompagnement qui a duré 14 ans hein, pour vous, Christelle.
Oui, mais aussi avec beaucoup d'humour et beaucoup de très beaux moments. Et je tiens vraiment à le rappeler et à insister sur cet aspect-là.
Merci. Merci beaucoup de ce témoignage. Et puis, on va continuer notre émission. Vous pouvez nous appeler. C'est un thème effectivement qui concerne aujourd'hui beaucoup de gens dans notre société. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Et à 13h20, Laurent Tessier, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. 1 200 000 personnes sont touchées en France par la maladie d'Alzheimer. L'un de vos proches est-il concerné? Comment vivez-vous le quotidien? Quelles sont vos principales difficultés? Et cette question, pourra-t-on vaincre cette maladie? Allez, dans 10 ans, Bruno Dubois, le directeur de l'Institut de la mémoire et de la maladie d'Alzheimer à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, était l'invité de RTL Midi.
C'est difficile de s'engager formellement sur une date, mais ce qui est clair, c'est qu'on connaît le chemin maintenant. On connaît les lésions de la maladie. On a des médicaments qui bloquent les lésions de cette maladie. Maintenant, il reste à montrer qu'en bloquant les lésions de cette maladie, on arrive à guérir les symptômes ou tout au moins à empêcher leur développement. Le point fondamental, c'est qu'on se rend compte que pour arriver à cet objectif, il faudra dans l'avenir recruter des patients le plus tôt possible, dès les premiers symptômes. Et c'est toute la difficulté.
Nous attendons vos témoignages dès maintenant dans l'émission 3210 3210.
Et nous sommes avec Nicolas qui est aide-soignant dans les Hautes-Marne. Bonjour.
Bonjour Pascal.
Vous êtes en contact avec des patients qui souffrent d'Alzheimer?
Alors je l'étais, j'ai passé une grande partie de ma carrière d'aide-soignant en gériatrie. Alors maintenant je suis en invalidité, donc je suis hors-jeu. Mais par contre effectivement je peux longuement en parler.
Même si entre Alzheimer parfois et sénilité, il y a parfois une frontière qu'on n'a pas toujours du mal à identifier.
Alors c'est une question plus de sémantique, parce qu'effectivement, alors l'Alzheimer, c'est un syndrome. Hein, on parle plus de maladie, on parle de syndrome qui fait partie des démences. Après, il y a d'autres types de démences qui s'ajoutent dedans. L'Alzheimer, c'est un sous-ensemble des démences, si vous voulez. Donc, c'est un problème qui est très compliqué à traiter parce qu'il est vraiment multifactoriel, aussi bien par rapport aux facteurs de risque. Tout à l'heure, vous posiez la question de la part de la génétique, etc. Alors, effectivement, on sait qu'il y a, pour certains cas, une part de génétique. Et là, on est, a priori, d'après les études, autour de 5%. Et après, c'est vraiment multifactoriel et c'est vraiment très, très dur à étudier. Parce que c'est une maladie qui évolue très lentement, donc c'est compliqué de mener des essais, parce que c'est des essais très longs, donc très coûteux, donc la recherche a vraiment besoin de moyens. Par exemple, c'est exactement le contraire avec le coronavirus, on tombe malade au bout de 5 jours, ou les gens meurent au bout de 3 semaines, où là on peut faire des études très rapides. Mais là, c'est pas du tout le cas. Donc c'est vraiment très compliqué à étudier, aussi bien les facteurs de risque que les traitements.
Mais si, par exemple, on faisait tous une IRM du cerveau à 40 ans ou 45 ans, on pourrait imaginer, voir dans notre cerveau si potentiellement la maladie d'Alzheimer peut arriver?
Alors le problème, c'est que une IRM, c'est un temps T. Donc vous pouvez n'avoir aucune lésion à 45 ans et en avoir à 50 ans. Donc après,
mais on ne pourrait pas, à partir de cette IRM, projeter un avenir, ça ne se voit pas, si j'ose dire.
Non, tant que les lésions ne sont pas là, ça ne se voit pas. Hein. Il faut qu'il y ait des lésions.
Pardonnez-moi de poser des questions un peu naïves, mais comme j'imagine, vous avez été très au courant de cela pendant autant d'années. Alors, vous dites que ce sont des patients qui demandent énormément de temps.
Alors oui, effectivement, ça demande énormément de temps. Parce que, bon, déjà, je voulais rectifier une petite chose par rapport à votre première éditrice. C'est que effectivement, il y a beaucoup de types de malades différents. C'est-à-dire qu'on a C'est vrai qu'on a un certain nombre de patients qui vont être agressifs ou très très anxieux, hyper anxieux. Et on a d'autres patients qui vont franchement très bien le vivre. Parce que tout simplement, ils ne s'en rendent pas compte. Comme disait d'ailleurs votre deuxième intervenante. Mmh. Et là, c'est beaucoup plus facile à gérer, sauf au niveau des familles. Et après, du coup, c'est vrai qu'il y a un gros problème au niveau de l'encadrement parmi les soignants, parce que tout simplement, on n'a jamais, moi, dans tous les services où j'ai travaillé, on n'a jamais été assez nombreux pour s'occuper des patients, parce que les patients, dans la première phase de la maladie, où ils sont encore capables d'avoir des activités, etc., on n'a pas le temps de les stimuler assez.
Oui. Alors que là, justement, on est avec Chantal, c'est intéressant parce que Chantal, elle vous écoute, elle est animatrice et elle anime des chorales avec des malades et elle stimule leur mémoire. Bonjour Chantal.
Bonjour.
Et alors, est-ce que c'est efficace ?
Ah, c'est non seulement efficace, mais c'est une source de joie immense. Immense.
C'est-à-dire que ce sont des dames ou des hommes qui sont victimes d'Alzheimer, que vous avez dans vos chorales. Donc
alors,
vous
avez... Oui, en fin de compte, moi, ce sont des personnes qui vivent chez eux et qui viennent chaque semaine, le même jour, à la même heure, avec les mêmes personnes, au même endroit, pour chanter.
Oui, mais si elles vivent chez elles, c'est qu'elles ne sont pas à un stade dégradé de la maladie, c'est qu'elles sont peut-être au départ.
C'est-à-dire qu'elles viennent jusqu'au lieu accompagnées de leur... la personne qui les accompagne, soit c'est le conjoint, soit effectivement c'est une aidante. Et du coup il reste là donc pendant une heure et demie tous les mardis, sans vouloir le dire. Voilà, c'est...
Et vous remarquez des progrès?
Alors moi, ce que j'ai remarqué, c'est pas une histoire de progrès, c'est juste une histoire magique, parce qu'en fin de compte, moi, j'ai, dans ma formation musicale, j'ai appris que la mémoire musicale ne disparaissait pas, ou du moins était vraiment restée pendant très longtemps chez ces personnes qui sont malades. Et donc, elles arrivent, il y a un rituel d'accueil qui fait qu'elles reconnaissent les personnes, qui fait qu'elles ont des liens sociaux, et une fois qu'elles se mettent à chanter... elles sont remplies des chants qu'elles ont déjà appris quand elles étaient plus jeunes. Et un jour, on est arrivé à avoir une personne qui nous dit « Ah oui, mais il y a encore deux couplets !» Et elle nous a chanté deux couplets de la chanson qui a été donnée. Et en fin de compte, elles choisissent leur chanson. Ça leur rappelle des souvenirs émotionnels de quand elles ont appris la chanson. Et puis elles sont tellement contentes de pouvoir chanter avec d'autres et de sortir de chez elles.
Alors j'imagine, mais je répète quand même un peu ma question, c'est un stade de la maladie où on peut encore être debout et pouvoir apprendre quelque chose et pourquoi pas même se souvenir de quelque chose. Donc c'est pas tout à fait à la fin de la maladie, où là c'est quand même plus compliqué.
Alors, à la fin de la maladie, effectivement, j'avais eu l'occasion de voir un reportage un jour à la télévision. La manière de le faire, c'est différent.
Oui.
C'est différent.
On marque une pause, Chantal, et on se retrouve dans une seconde.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Pascal Pro,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Laurent, nous sommes le 21 septembre, c'est la journée mondiale de sensibilisation à la maladie d'Alzheimer. Vous êtes nombreux à venir témoigner depuis le début de l'émission. Actuellement, aucun traitement existe pour guérir ou l'éviter. Où en est la recherche? A-t-on fait des progrès? Thierry Lhermitte est le parrain de la Fondation pour la Recherche Médicale. Il était l'invité de RTL ce matin avec Alba Ventura.
Depuis que Alois Alzheimer a décrit cette maladie au début du 20e siècle, il ne s'est rien passé. Voilà, en gros, il n'y a rien eu. La connaissance a stagné. Et puis, ça fait 10-15 ans, grâce à l'imagerie médicale, à la recherche médicale, qu'on commence à comprendre, voir et imaginer des traitements. Donc, probablement, dans les 10 ans qui viennent, peut-être moins, autour de ça, on devrait pouvoir avoir des traitements qui soient efficaces pour ralentir la maladie.
On rappelle ce constat, Pascal, un nouveau cas est diagnostiqué en France toutes les 3 minutes.
Ce qui fait 600 cas par jour, ce qui est tout à fait incroyable. Chantal était avec nous, elle est animatrice, et elle nous disait qu'elle accueillait chaque mardi des malades d'Alzheimer, qu'elle les faisait chanter, qu'ils se souvenaient des paroles qu'ils avaient apprises, peut-être dans un temps ancien, dans leur jeune temps, et que ça produisait du bonheur.
Allô ?
Oui, Chantal.
Oui, je voudrais rajouter deux choses.
Oui.
La première, c'est que vous m'avez posé la question de, dans les différents stades de la maladie. Ça nous est arrivé d'aller chanter au pied du lit d'une personne qui était en soins palliatifs et qui s'est mise à rechanter un chant qu'elle avait appris quand elle était, voilà, quand elle était plus jeune. Et puis la deuxième chose, c'est que effectivement, Thierry Lhermitte parlait de stimuler. En fin de compte, nous, c'est vraiment ça. C'est stimuler le cerveau, stimuler, je vais dire comme ça, la personne. Et quand elle chante, effectivement, voilà, on se met à chanter. Elle est complètement dans le chant. On arrête le chant et la maladie reprend le dessus. Mais ce sont des moments de, vraiment de bonheur qui sont proposés chaque fois. Et c'est, moi, j'habite Paris et en fin de compte, c'est par l'association Chorale en Joie, dans l'association VSR, qui propose des activités effectivement par l'art, que cette chorale existe et effectivement et permet de pouvoir stimuler, nourrir le cerveau, le lien par le chant.
Ben merci Chantal de ce témoignage. Claude est avec nous. Bonjour Claude.
Oui, bonjour Pascal.
Et merci d'être avec nous, même si... J'imagine que c'est pour vous compliqué de parler de votre grand-mère.
Oui, de ma grand-mère et de ma mère. J'ai eu ma grand-mère... alors, je l'ai peu connue parce qu'elle elle s'est suicidée assez tôt par rapport à moi. Elle voyait qu'elle perdait la tête, puisqu'à l'époque, on ne parlait pas de maladie d'Alzheimer. On ne savait pas. Elle perdait la tête, voilà, c'est tout. Elle s'est suicidée au gaz... Et puis...
C'était en quelle année ?
Oh, j'avais entre 5 et 7 ans, je ne saurais pas vous dire, mais voilà,
donc
j'ai 60 ans.
Donc c'était il y a 60 ans à peu près.
Voilà, voilà.
Donc, dans les années 60, à la fin des années 50.
Oui, oui, voilà. Voilà. Et puis, j'ai eu ma mère à gérer, et là, ça a été très, très, très difficile, parce que, ben, au début, voilà, vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui ne vont pas, et elle s'en rendait compte. Elle en avait très, très peur. Je l'ai su après, vous savez, quand elle allait à la banque, elle en parlait aux dames qui étaient au guichet. Elle se rendait compte qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Et ça, c'est
ça
très,
a duré combien
très
de temps?
Oh, ça a duré, je dirais, une bonne dizaine d'années.
Et donc,
entre le tout début et puis la fin, où j'ai été obligé de la placer en maison de retraite parce que c'était devenu ingérable. Et puis...
Quand vous dites ingérable, par exemple, parce qu'il n'y a pas deux cas pareils, elle était plutôt calme ou elle pouvait être très agitée, votre mère ?
Non, elle se voyait en tant que jeune fille. Donc, elle habitait Bougival, mais elle se voyait habiter Courbevoie. Elle sortait, mais après, elle risquait de ne plus se retrouver, de ne plus retrouver son appartement. Moi, pendant des années, j'ai évité une mutation pour pouvoir continuer à travailler en passant devant chez elle. Donc, tous les jours, j'allais la voir, je faisais ses courses,
seule à ce moment-là quand...
Oui, 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 oui.
Quand vous n'étiez pas là, elle aurait pu sortir, par exemple ?
C'est pour ça que j'ai été obligée de la placer, parce que ça arrivait, elle m'appelait... alors, elle m'appelait 10-15 fois par jour au téléphone. Et elle me prenait pour son frère. Bah, c'est-à-dire que pendant des années, elle prenait son calepin, elle voyait, c'est ça qui est étonnant dans cette maladie, elle prenait son calepin, elle allait à Claude, et elle m'appelait à l'ODD. Voilà,
elle a été diagnostiquée Alzheimer.
Alors, elle a été diagnostiquée quand je l'ai placée en maison de retraite, parce que on allait voir un neurologue qui nous disait « Oh ben non, rien ne me prouve. » Voilà, je disais « Mais vous vous rendez compte ? » Elle n'arrive pas à se mettre en tête que je suis son fils et tout. Mais voilà, c'est...
C'était en quelle année, Claude ?
Alors, elle est morte en 2003. début 2004. Donc voilà, ça fait...
Donc ça a duré une petite dizaine d'années, dites-vous.
Oui.
Et elle
a été
placée combien de temps?
Elle a été en maison pendant deux ans et demi, trois ans.
Donc pendant 7 ans quand même, elle a pu vivre avec une certaine autonomie. Restez avec nous parce que votre témoignage est, j'allais dire, passionnant, mais c'est vrai que c'est très très intéressant. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Claude nous racontait comment il avait accompagné sa mère pendant plus de 10 ans, et notamment dans les dernières années, combien c'était compliqué... Toute la vie est changée, vous l'avez dit, vous avez refusé des mutations, vous passiez tous les jours chez elle pour l'aider. Il y a beaucoup de témoignages quand même qui sont positifs, et notamment le lien qui existe, même dans les derniers mois, entre un fils et sa mère, même si sa mère ne le reconnaît plus, ce qui devait être sans doute le cas de votre mère, Claude.
Oui, alors, moi, les tout derniers moments, j'ai pas pu parce que quand j'allais à la maison de retraite, quand je sortais, je pleurais toutes les larmes de mon corps. Et à la fin, le directeur de la maison de retraite m'a dit de ne plus venir parce que deux minutes après que je sois parti, il lui disait: vous êtes contente, vous avez vu votre fils. J'ai dit: mais non, j'ai vu personne. Si vous voulez, voilà, à la fin, c'était vraiment... Ça me détruisait et ça ne lui faisait plus de bien, malheureusement.
C'est vrai qu'on a tous des témoignages d'aller parfois dans des maisons où on croise des gens très âgés qui sont Alzheimer ou en sénile, et que d'abord ça agit comme un miroir, parce qu'on se dit un jour on sera peut-être à leur place. C'est
voilà,
exactement
ça,
auquel on pense, et on est frappé de la condition humaine, de la misère de notre condition humaine.
Oui.
Moi je me souviens à l'envoi dans un EHPAD au Croisic, ma grand-mère qui avait passé 90 ans, il y avait des gens qui se promenaient nus dans les couloirs, des gens de 90 ans, 92 ans, 93 ans. Donc il y a un délabrement de l'homme ou de la femme qui effectivement est tout à fait saisissant.
Voilà, moi à la fin, elle ne pouvait plus se lever, donc elle était en fauteuil roulant.
Oui.
Et toute la journée, elle se croyait, si vous voulez, en colonie de vacances. Et donc toute la journée, elle pleurait, elle hurlait en appelant ses parents pour qu'ils viennent la chercher.
Et de voir parfois tous ces gens, lorsque vous rentrez assis dans des fauteuils devant la télévision, des heures entières, des gens qui ont passé 90 ans, dont personne ne s'occupe, mais effectivement vous êtes impuissant quand vous êtes la famille, parce que vous venez quelques minutes, mais que voulez-vous dire, que voulez-vous faire?
Oui.
Il y a, c'est absolument terrible,
voilà,
terrible
de moi, je suis
le
pour
spectacle.
L'euthanasie.
Ben oui, mais c'est... Oui, mais...
Mais une euthanasie régulée, hein,
mais Claude,
entre la famille et les médecins.
Mais c'est... moi, ça me paraît très compliqué à mettre en place. En tout cas, merci pour votre témoignage, Claude.
Vraiment,
habitez dans les Landes. Où est-ce que vous habitez dans les Landes?
À Estibault, du côté de Dax, entre Dax et Orthez. Et voilà,
c'est un beau pays.
Les chevreuils et les faisans.
Ben, c'est un beau pays. Pierre est là également. Bonjour Pierre, qui habite dans l'Isère.
Oui, bonjour Monsieur Pro.
Ah mais je reconnais votre voix, Pierre.
Ah oui, parce que j'ai déjà participé à votre émission sur des sujets beaucoup plus gais. Notamment, je vous avais chanté la mère de Charles Trenet lors d'un hommage.
Je me souviens.
Et puis Félicie pour Fernandel. Donc c'était plus gai que maintenant, bien que à cette époque j'étais tout seul avec mon épouse chez moi, atteinte d'Alzheimer.
Et votre épouse est décédée?
Ah non, non,
ah
non,
bon.
non, justement. Enfin,
justement.
Je ne vous dirai pas comme votre auditeur précédent avec lequel je suis tout à fait d'accord.
Oui.
Mais moi, je m'en suis occupé pendant 5 ans tout seul.
Vous parlez de votre épouse, là?
De mon épouse.
Donc votre épouse, aujourd'hui, est Alzheimer.
Nous sommes mariés en 75, vous voyez, en 1975. Et nous nous connaissons depuis 69. Donc, moi, je l'ai gardé pendant 5 ans tout seul. Alors, on a décelé Alzheimer en 2014. En janvier 2014, ça fera bientôt 8 ans. Et pendant 5 ans, je peux vous dire que c'est vraiment quelque chose de terrible. Parce que, en plus de ça, elle, elle est dans un fauteuil roulant depuis pratiquement depuis 4 ou 5 ans.
Mais ça, c'est lié à la maladie d'Alzheimer qu'elle soit dans un fauteuil roulant?
Elle avait une malformation congénitale de la hanche, ce qui fait que ça ne s'est pas arrangé et que les derniers temps, là, depuis 4 ans, j'avais acheté un fauteuil roulant, moi, je la promenais, tout ça. Je faisais tout du matin au soir. Et c'est ça que je voudrais expliquer aux gens, c'est d'avoir quelqu'un comme ça 24 heures sur 24. C'est terrible, contrairement à ceux qui sont des enfants ou des petits-enfants, qui les ont des fois la journée ou qui vont les aider quelques heures. Mais toute la journée et 24 heures sur 24, c'était terrible. À tel point que, surtout des fois la nuit, elle, de 1h du matin à 6h du matin, elle parlait, elle se battait avec des gens et tout. Moi, je ne pouvais pas dormir à côté. Ce qui fait qu'au mois de mars dernier, j'ai été très fatigué. Il a fallu qu'on me rentre d'urgence à la clinique. On m'a fait une opération occlusion intestinale, perforation de l'intestin, péritonite. Oui, j'ai eu la totale. Et le médecin s'était demandé comment j'étais arrivé vivant à la clinique. Toujours est-il que ceci m'a obligé à faire rentrer mon épouse en EHPAD. Et c'est pas moi qui l'ai fait. J'avais fait la demande quelque temps avant parce que l'assistante sociale m'avait dit, mais il faut faire le dossier, même si quand on vous propose une place, même si vous voulez pas à ce moment-là, mais le dossier est fait. Voilà, et c'est ce que j'ai bien fait parce que mes filles ont pu s'occuper de ça. Elles l'ont fait rentrer 10 jours après mon hospitalisation. Elle a pu rentrer à l'EHPAD qui est tout proche de chez moi. Et moi, je suis resté 2 mois à la clinique. Donc, je l'ai mise contrainte et forcée parce que j'avais toujours dit, je ne veux pas la mettre en EHPAD. Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Et on me critiquait, bien sûr, les enfants. Mais tu vas voir, tu vas pas y arriver. Bah, effectivement, je suis tombé malade et maintenant, je suis bien ennuyé. D'autant que, n'ayant pas le pass sanitaire, je ne peux plus aller la voir. Les personnes qui ont parlé avant moi.
Pourquoi vous n'avez pas de passe sanitaire,
Parce Pierre? Que je ne veux pas me faire vacciner pour la raison bien simple que lorsque j'avais 20 ans, je suis parti en Algérie, on n'a pas pu me vacciner parce que j'avais de l'albumine. On ne s'est pas préoccupé de ma santé, on m'a dit on n'en a rien à foutre de votre albumine, oui, vous partez Pierre, sans vaccin.
Pierre, vous êtes... c'est pas une bonne raison, Pierre, vous
oui,
êtes...
parce que j'ai toujours été malade chaque fois que j'ai été vacciné. Et maintenant que j'ai 82 ans bientôt, j'ai pas besoin que l'État...
Vous êtes population fragile, Pierre.
Pardon ?
Vous êtes population fragile.
Non, j'ai jamais rien. À part c'était machin, je savais pas ce que c'était qu'un médicament avant le mois de mars dernier. Et alors justement, je ne veux pas que maintenant on me dise qu'on s'occupe de ma santé alors qu'on s'en est pas occupé quand j'avais 20 ans, que j'aurais pu me faire casser la gueule en Algérie.
Bon, Pierre, on va marquer une pause, mais restez avec nous. D'abord
mais bien sûr que je reste, parce que si vous voulez, j'ai beaucoup de choses à vous dire.
Pierre... Je n'en doute pas, Pierre, et restez vraiment avec nous parce qu'on vous écoute avec tendresse. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Participez au débat en appelant le 3210.
50 centimes la minute.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Monsieur Tessier.
Faut-il dégenrer les cours de récréation? Par exemple, abandonner les cages de football. De plus en plus de villes font des aménagements, comme à Grenoble, à Lyon ou encore à Rennes. Et selon certaines études, 90% de l'espace de la cour peut être occupé par des groupes de garçons qui jouent au ballon. Ah oui, alors faut-il privilégier les jeux mixtes, les potagers? Tous les enfants seraient-ils heureux de ne plus voir les buts de foot?
Les potagers, c'est pas un jeu.
Moi, je suis dégoûté pour qu'ils aient enlevé le deuxième but, parce qu'on pourra pas faire la Coupe du Monde.
Les cages de football, stop ou encore, faut-il changer les jeux de nos enfants dans les cours de récréation? Donnez-nous votre avis dès maintenant au standard. C'est à vous.
Et 13h51, nous sommes donc avec Pierre. Pierre, donc, qui a accompagné son épouse.
Voilà.
Et elle est où aujourd'hui? Elle est hospitalisée, votre épouse?
Elle est toujours en EHPAD. L'EHPAD est à 10 minutes à pied de chez moi.
Vous y allez tous les jours?
Eh ben non, je vous ai dit que j'avais pas le pass sanitaire, donc je ne pouvais pas y aller. Mais par contre, au début, lorsque...
Mais là, vous pourriez vous faire vacciner pour aller la voir. Alors, vous n'allez pas voir votre épouse.
Je ne peux pas me faire vacciner parce que je suis malade quand on me vaccine.
Mais Pierre, voilà. Si votre épouse,
N'insistez pas, je ne me ferai pas vacciner.
Mais non, je ne veux pas insister, Pierre. Mais si votre épouse est,
Justement, je vais y venir, parce que votre auditeur précédent l'a dit, lorsqu'il allait voir sa mère, il en ressortait complètement malade. Bon, eh bien moi, lorsque je suis sorti de la clinique, il y avait un mois et demi que je n'avais, plus de deux mois que je n'avais pas vu mon épouse, et notamment depuis qu'elle était en EHPAD, donc j'y suis allé. Et un jour, eh bien malheureusement, j'ai été surpris de l'embrasser, mon épouse. Qu'est-ce que vous voulez, après deux mois de ne pas l'avoir vue, je trouvais que c'était la moindre des choses. Ah ben non, figurez-vous que ça m'a valu une interdiction d'aller voir mon épouse pendant 15 jours. J'ai été comme à l'armée, vous voyez, j'ai
et
eu 15 jours.
Pourquoi, je comprends pas.
Parce que j'avais embrassé ma femme, c'est défendu. Avec le code, avec le règlement de la Covid, parce que je vous précise que Covid c'est féminin, bien que tout le monde l'emploie au masculin, eh bien, j'ai eu l'interdiction d'aller voir mon épouse parce que j'étais passé au-dessus du règlement. Mmh. Voilà. Bon. Alors, maintenant, vous comprenez.
Ça, c'était avant le passe sanitaire.
Oui. Mais le règlement était que on devait ne pas se toucher et avoir une distanciation d'un mètre cinquante.
Donc là, votre épouse, vous ne l'avez pas vue, vous ne l'avez plus vue depuis...
Je ne la vois plus, j'y suis allé, parce que depuis le pass sanitaire, j'y allais le samedi et le dimanche. Parce que le samedi et le dimanche, il n'y a personne qui surveille. Seulement, la chose à laquelle je n'avais pas pensé, c'est qu'il y a des caméras, et c'est sous surveillance.
Donc, dans la chambre de votre femme, il y a une caméra ?
Non, à l'entrée.
Et donc, c'est là que vous l'aviez embrassé ?
À l'entrée de l'EHPAD. Non, quand je l'ai embrassé, il n'y avait pas les... c'était avant le pass sanitaire. C'était le règlement qui était qu'il fallait 1,50 m. Mais là, maintenant, il faut le pass sanitaire qu'on présente à l'entrée. Comme le samedi et le dimanche, il n'y a personne à l'accueil, j'y allais le samedi et le dimanche. Mais il y a un service de vidéosurveillance qui fait que...
Et ils vous ont repéré ?
Eh bien oui, parce qu'il faut signer un cahier à l'entrée.
Ah ouais, donc vous, oui.
Je ne signais pas puisque je n'avais pas le droit d'y aller.
Bien sûr.
Je suis monté à l'étage, je suis resté un moment avec ma femme, et au bout d'un moment, je vois une infirmière qui arrive, et que je n'avais jamais vue d'ailleurs, et qui me dit « Vous avez signé le cahier en bas ?» Oh, j'ai dit non, j'ai oublié. Mais vous savez qu'il faut le pass sanitaire aussi. Putain, c'est là que j'ai pensé, j'ai dit « Merde, il y a les caméras, elle m'a vu que j'ai pas signé, c'est pour ça qu'elle monte le voir. Bon. » Elle me dit « Bon, je vais chercher les infirmières du service. » Elle est allée chercher les infirmières du service qui sont venues.
Et vous êtes fait engueuler à 80 ans,
non,
ce qui est quand même...
Non, je ne suis pas fait engueuler. Parce que les infirmières... Non, mais les infirmières du service, moi, elles me laissaient tranquille le samedi et le dimanche. Et là, elles m'ont dit « Écoutez, on est embêtés, mais vous savez, il faut le pass sanitaire. » Je dis « Mais bien sûr, je sais qu'il faut le pass sanitaire. Sachez que je m'en vais parce qu'aujourd'hui, j'en ai déjà assez vu et assez entendu et je ne reviendrai
plus. »
Bon,
votre épouse, elle est dans quel état aujourd'hui, Pierre ?
Eh bien, elle est dans un état où quand les gens qui la connaissent voient, j'ai récemment eu des photos, eh bien, ils l'ont trouvée très amaigrie. Mais, question de comportement, elle se comporte comme elle se comportait à la maison. C'est-à-dire qu'elle a de très... Et les moments où elle me voit, elle dit « Ah, c'est pas bon !» Et puis ça dure 20 secondes, et après, elle repart dans ses...
Mais vous reconnaissez pendant l'espace de 20 secondes, elle peut vous reconnaître ?
Je ne pense pas.
Est-ce qu'elle montre des signes de tristesse sur son état ?
Je peux pas. C'est difficile à dire parce que, vous voyez, maintenant, je prends tous les jours des nouvelles par l'intermédiaire des infirmières. Ça les dérange, mais je fais comme ça tous les jours quand même. Eh bien, on me dit toujours qu'elle va très bien. Alors moi je dis, écoutez, moi dans l'état où je la vois, je trouve pas qu'elle aille très bien, mais enfin, puisque vous me le dites, eh ben, c'est que c'est vrai, et je vous crois. Et puis l'autre jour, on me dit, avant-hier, on m'a dit, « Ah, mais ce matin, elle chantait !» Ah ben, j'ai dit, c'est probablement pour ça qu'il a plu. Voilà, parce que, vous voyez, l'état, non, mais il faut bien se mettre en tête que cet état, il ne peut pas s'améliorer.
Non, mais c'est terrible, Pierre.
C'est considéré, on doit considérer ça comme une maladie incurable, et c'est vrai. Mais elle ne vous tue pas. Elle ne vous tue pas. Mais, justement, moi, je vais vous dire, comme vous a dit votre première interlocutrice qui a travaillé dans les EHPAD, eh bien, moi aussi, j'ai pensé d'aller en Suisse ou en Belgique.
Oui, mais c'est impossible à faire. Merci Pierre, en tout cas, de votre témoignage. Merci beaucoup. Il est 13h57, c'est l'heure traditionnellement où l'ami Jean-Alphonse Richard vient nous rejoindre pour évoquer ce que sera l'heure du crime.
Eh bien Pascal, aujourd'hui...
Bonjour
Pascal. Aujourd'hui, on va parler de Patrick Trémaux, qui a été surnommé le violeur des parkings de l'Est parisien. 18 viols entre 1986 et 2005. Pourquoi c'est intéressant? C'est pas tellement au niveau de ces crimes qui sont répétitifs et effroyables, des viols en série, mais surtout pas, c'est le procès de la récidive aussi, Trémaux. Il est passé deux fois aux assises et chaque fois qu'il est ressorti, il a récidivé des viols et des viols à nouveau en série. Il n'y avait aucun suivi pour lui, il n'y avait aucun moyen finalement de savoir où était cet homme. Et les policiers l'ont chaque fois rattrapé. Il a été condamné une troisième fois à 20 ans de prison. Il est sorti au mois de juin. Il a 52 ans. Autant vous dire qu'il a été très mal accueilli à Coulommiers où il était installé. La presse en a beaucoup parlé, RTL en a parlé. Et puis à Saint-Denis où il a même été agressé. Aujourd'hui, il est en liberté, sans doute beaucoup plus surveillé qu'à l'époque. Mais c'est de la récidive dont on va parler dans l'heure du crime.
13h58, à tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Il est 14h. Le flash avec Agnès Bonfillon.
Déjà blessé, Léo Messi, le nouvel attaquant du PSG, est forfait pour le match à Metz demain en 7e journée de Ligue 1. L'Argentin est blessé au genou gauche, il a reçu un coup. Cette information RTL que nous vous donnions à la mi-journée, une importante opération de police est en cours à Cavaillon. Cela fait suite à une nouvelle fusillade dans la cité du docteur M. Pas plus tard que ce matin, nous vous parlions de la guerre de territoire entre trafiquants dans cette ville du Vaucluse. Après Xavier Bertrand, Marine Le Pen demande à Emmanuel Macron de prendre la parole dans l'affaire des sous-marins avec l'Australie. La présidente du Rassemblement national a profité d'un déplacement en Isère pour dénoncer, dit-elle, l'effondrement de notre diplomatie. La Charente-Maritime allège les restrictions liées au Covid. À partir de demain, il ne sera plus obligatoire de porter le masque en extérieur. Autre interdiction qui tombe, celle de consommer de l'alcool sur la voie publique. Le département avait pris ces mesures comme d'autres, souvenez-vous, au mois de juillet, alors que l'épidémie s'aggravait en raison notamment de l'afflux de touristes. Si vous habitez Limoges, forcément, vous connaissez la frérie des petits ventres. L'événement qui draine d'habitude de 15 à 30 000 personnes en octobre est une nouvelle fois annulé en raison du Covid. Les contrôles sont un véritable casse-tête pour les organisateurs de cette déambulation gastronomique. La météo demain, le soleil aura donc attendu le premier jour de l'automne pour s'installer sur la majeure partie du pays. Quelques brumes et grisailles matinales vers le centre, le Lyonnais, la Garonne et la Bretagne, mais ça va très vite se dissiper. Ailleurs, quelques passages nuageux sur le golfe du Lion, mais franchement, la journée de mercredi sera une belle journée. Je vous donne quelques températures, Pascal. Il fera frais demain. 4 à Reims et Nevers, 5 à Orléans, 9 à Tarbes, 11 à Bordeaux. L'après-midi prévoyez 20 à Cherbourg, 27 à Marseille quand même, et jusqu'à 27 également à Ajaccio.
Merci Agnès.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.
Vous m'avez surpris, Agnès.
Non, mais vous ne m'aimez plus.
Mais si, j'écoutais au contraire les infos de soleil que vous me donniez. J'étais complètement sous le charme.
Oui, bien sûr, oui.
Vous vous souvenez des cours de récréation quand vous étiez enfant?
Ah oui.
Et il n'y avait que des garçons qui jouaient au football ou il y avait des filles qui jouaient à la marelle?
Ah, moi, je joue à la marelle, oui.
Faut-il dégenrer les cours de récréation? Ça, c'est un bon sujet. Et figurez-vous que nous allons être avec Paola. Et ça nous intéresse parce que Paola, tu as quel âge, Paola?
Alors, bonjour Monsieur Pascal.
Bonjour.
Je viens d'avoir 15 ans cet été.
Donc là, ça nous intéresse parce que tu es au cœur du système, si j'ose dire. Même si tu es encore collégienne et parfois c'est en primaire aussi que les cours sont réaménagés. Alors, je voudrais savoir quelle expérience, toi, tu as des cours de récréation. Comment tu juges ça depuis que tu es entrée à la maternelle?
Très bien. Bah alors déjà, pour commencer, la première fois que j'ai entendu le terme de dégenrisation, j'ai été assez surprise. Pourtant, j'ai réfléchi et je me suis tout de suite rappelée de souvenirs de primaire, alors beaucoup plus qu'au collège. Des cours de récréation, il y avait toujours d'un côté les champions du foot et puis de l'autre les championnes de la tchatch. Donc moi, j'en faisais partie. Avec mon petit porte-manteau rose, les garçons, leur porte-manteau bleu. Et c'est là que je me suis rendu compte, avec le recul que je pouvais pas avoir il y a quelques années, que cela, en fait, n'a jamais été inné. Je me suis jamais réveillée un matin en me disant, tiens, avec ma copine Esther, j'ai passé toute la journée à parler en observant les garçons qui jouaient au foot en pleine action, qui ont l'air de bien s'amuser. Je pense que la preuve aujourd'hui, c'est qu'il y a des enfants, du coup, issus des écoles primaires qui sont quand même assez jeunes, qui s'en rendent compte par eux-mêmes, en fait.
Ils se rendent compte de quoi ?
Bah, qui se rend compte qu'il y a des inégalités, que des garçons peut-être s'amusent plus que les filles.
C'est-à-dire que toi, tu constates que la cour était davantage prise par les garçons que par les filles. Ça, tu Absolument. Le constates. Tu le constates depuis que
Alors,
tu
je
es...
Je constatais. Après, au collège, c'était totalement effacé. Aussi au lycée, donc cette année, ça n'existe plus. Mais en primaire, moi, je me souviens toujours, après, c'est un cas personnel, mais il y avait toujours la cage au tatouage qui était réservée aux filles.
La cage au...
La cage au tatouage, parce qu'il y avait...
Ah, au tatouage, j'avais pas compris.
Absolument. Parce que les enfants collaient des tatouages malabar ouais. dessus.
Donc c'était réservé aux filles.
C'est pas que c'était réservé, mais c'était toujours... Enfin oui, voilà, où on voyait le plus de filles, puis l'autre terrain, donc délimité par les traces blanches, avec un ballon, avec des garçons. Moi, j'ai tout... Voilà, c'est mes souvenirs... Bon.
Toi, idéalement, tu aimerais que ça se passe comment dans une cour de récréation ?
Bien, idéalement, je pense qu'il faudrait organiser plus de jeux en collectivité. L'école, c'est quand même une des premières quand même, étapes de construction d'une vie. Et c'est une chance, là, on vit en communauté, avec toutes nos différences, en diversité. Et donc, je pense qu'il faut en profiter, s'organiser des jeux en communauté. Je veux dire, essayer de ne pas exclure tout le monde, parce que là, on parle beaucoup de dégenrisation. Mais je pense que c'est aussi un prétexte, entre guillemets, pour aussi rassembler les personnes plus extraverties et introverties. Mmh. Donc voilà, ça pourrait aussi servir à plusieurs...
voilà. Et toi, tu trouves que de manière, tu t'entends indifféremment avec les garçons ou avec les filles, ou traditionnellement, naturellement, tu es davantage aujourd'hui avec des amis filles que des amis garçons ?
C'est une question intéressante parce que je pense que j'aurais pas eu la même réponse il y a quelques années. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on connaît beaucoup d'inégalités sociétales de genre. Et pareil, qui ne sont pas innées, qui ne sont pas apparues comme ça. Et c'est là, je pense, qu'on peut faire le lien avec l'école. C'est peut-être de là que ça part. Et donc, je pense que c'est dès la maternelle qu'on doit essayer de rassembler tout le monde.
Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais ce n'était pas tout à fait ma question. Toi, naturellement, tu es plus avec indifféremment ou plus avec des filles ou plus avec des garçons ?
Mais justement, je pense que naturellement, je ne sais pas, parce qu'on a tout de suite été immergé déjà dans un monde où les genres étaient, étaient séparés. Moi, je vous parlais des porte-manteaux roses et des porte-manteaux bleus. Ça peut paraître vraiment tout bête, mais déjà, ça marque une différence entre
bien deux sûr, genres bien de sûr, vous avez parfaitement
qui, comme
raison.
Comme ça, à leur âge, en fait, qui naturellement, si ça se trouve, voilà, on aurait fait abstraction.
Bah merci Paola, c'est toujours un plaisir de t'avoir. Hein. T'as 14 ans, t'interviens, quoi, 15 ans maintenant, t'interviens régulièrement sur l'antenne et on est toujours surpris de ta maturité, de la qualité de ton expression. Merci Paola,
merci
beaucoup. Il a à peine plus que Paola, à peine quelques mois.
Et oui, c'est vrai.
Et c'est l'homme qui est...
Est-ce qu'il parle aussi bien que Paola ?
Il parle... Très bien, maintenant, il ne lui manque que la parole.
Il et progresse.
C'est Olivier.
Merci beaucoup de m'avoir défendu.
Olivier, comment allez-vous ?
Mais bien, et vous, Pascal ?
Dans les cours de récréation, ça se passait comment chez vous ?
Eh bien, écoutez, Pascal, on jouait beaucoup au foot. Eh oui.
Eh oui.
Eh oui, bien sûr. Après,
j'étais garçons ?
Entre garçons, mais j'étais sous-doué au football alors que je voulais être footballeur professionnel. C'était le grand paradoxe de mon enfance, Pascal.
il n'y a que dans le football que vous étiez sous-doué, parce que pour le reste, vous êtes doué de qualités, notamment intellectuelles, assez intéressantes.
Et merci beaucoup, ça c'est un vrai lancement. On commence avec Karl qui pousse un coup de gueule sur nos réseaux sociaux. Mais dans quel pays vit-on ? Remettons plutôt en cause le programme de l'éducation nationale. Viviane nous dit, on est bien loin des écoles filles et des écoles garçons qui existaient il y a 100 ans. Pour Anne, accorder autant d'espace aux filles qu'aux garçons dans les cours de récréation, c'est juste normal. Et on termine avec Henriette qui nous écrit, il y a 60 ans quand j'étais à l'école, je jouais au foot avec les garçons. En 2021, ça ne serait même plus possible.
Elle est du Mans, Henriette ? Non.
Alors Pascal, je ne pense pas.
Elle c'est est
pas...
très bonne cette blague.
C'est pas Henriette du Mans.
J'ai même pas osé rigoler, c'est pour vous dire.
Christophe est avec nous. Après la pub, Christophe. A tout de suite. Mais Olivier, vous Pascal arrivez Pro. Tard aujourd'hui, il était 14h08.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Laurent.
Vous pouvez nous appeler sur d'autres sujets d'ici la fin de l'émission. Faut-il féminiser l'espace public ? À Rouen, une consultation a été lancée sur le retour ou non de la statue de Napoléon devant l'hôtel de ville, actuellement en restauration. Faut-il la remplacer par celle de l'avocate féministe Gisèle Halimi ? 32-10. Seriez-vous prêt à vacciner vos enfants dès 5 ans contre le Covid-19 ? Selon les laboratoires Pfizer-BioNTech, le vaccin est sûr et bien toléré par les enfants de 5 à 11 ans. Bernard Jomier, médecin généraliste, sénateur écologiste, était l'invité de RTL ce matin. Il est le rapporteur d'une proposition de loi qui vise à instaurer la vaccination universelle obligatoire contre le Covid-19.
On est à un stade, voyez-vous, où il y a 9 millions de personnes qui ne sont pas vaccinées, 9 millions d'enfants de moins de 12 ans, et où donc le virus peut continuer à circuler à un niveau beaucoup trop élevé. Et il faut réduire ce niveau de circulation du virus pour mieux nous protéger tous les uns et les autres. Il faut penser la suite, et penser la suite, c'est réduire beaucoup plus fortement la circulation du virus, et c'est donc aller vers la vaccination de tout le monde.
Seriez-vous prêt à vacciner vos enfants dès 5 ans contre le Covid-19 ? Nous attendons vos avis dès maintenant au 3210, 3210.
Et nous sommes donc avec Christophe, qui est directeur d'une école primaire et qui intervient sur cette cour dégenrée. Qu'en pensez-vous ?
Bonjour Pascal.
Bonjour.
Je ne sais pas qui a pondu cette ineptie, mais je lui décerne la médaille d'or de la stupidité. Alors, je vais essayer d'être concis. Deux choses. Croyez-vous, Pascal, que les enfants ont attendu que des personnes bien pensantes dégenrent les cours pour s'approprier une cour ? Un, dans mon école où j'étais encore l'année passée, au foot, jouaient des filles et des garçons. À la marelle et à la corde à sauter, jouaient des filles et des garçons. Première chose. Deuxième chose. Est-ce que ces personnes bien pensantes, probablement à Paris dans des fauteuils de cuir loin des réalités quotidiennes d'une école, ont conscience que dans les écoles, il y a des directeurs et des professeurs qui ont déjà réfléchi à ce type de situation, comme moi, Christophe? C'est-à-dire que les cours de récréation, c'est un espace à partager et chacun et chaque équipe de profs y réfléchit légitimement en faisant en sorte qu'il y ait une équité entre filles et garçons ou entre filles-garçons qui jouent à des jeux différents. Ça, c'est une chose.
Bah, c'est marrant parce que vous dites que c'est pas bien, mais vous le faites vous-même.
Non. Je vais pousser plus loin mon
raisonnement. Parce que vous faites finalement ce que vous l'avez fait vous-même, c'est ce que vous me dites.
C'est-à-dire ce qui est très important, Pascal, que tout le monde comprenne bien, les auditeurs. Les pauvres gosses en France, unique pays d'Europe, passent 6 heures par jour en classe. Ce quart d'heure de récréation du matin et de l'après-midi est essentiel.
Plus la cantine le midi. Ça peut être 2 heures
le midi. La cantine à midi, alors là, une autre fois on en parlera, c'est la gabegie la plus totale, mais ça c'est autre chose. Ce petit quart d'heure pour des pauvres gosses de 6-10 ans, vous ne croyez pas qu'il est essentiel qu'on leur foute la paix et qu'on les laisse faire ce qu'ils veulent quand ils veulent? Moi, j'ai testé dans mon école des jours sans ballon. J'avais des garçons et quelques filles qui s'ennuyaient parce qu'on leur interdisait de jouer au ballon. Depuis la nuit des temps et depuis que je fais ce métier, c'est-à-dire 40 ans, j'ai toujours vu dans les récréations des garçons jouer au ballon avec des filles parfois, et des filles beaucoup discuter, jouer à la marelle, à la corde.
Ben oui, mais alors, c'est ça, paraît-il, qu'ils ne veulent plus.
Mais
c'est que le monde ne veut plus de cette représentation-là. Le monde pense aujourd'hui qu'on inscrit dès le primaire des comportements qui se poursuivront durant la vie durant, où les garçons prennent toute la place, font ce qu'ils veulent, s'amusent, jouent au foot, et les filles regardent en parlant.
Alors, permettez-moi, Pascal, de vous dire que la plupart de mes collègues professeurs et directeurs, on y réfléchit, nous, puisque c'est notre terrain de jeu, entre guillemets, tous les jours.
Mais est-ce que c'est vrai, ça ?
Mais bien sûr que c'est vrai. Moi, je l'ai vécu, j'ai fait 15 écoles différentes en tant que directeur en France.
Si c'est vrai, est-ce qu'il faut le changer ? Est-ce que si les garçons... Oui. Moi, ces thèmes-là, je vous assure, c'est pas ma tasse de thé, si j'ose dire, parce que je suis d'une autre génération, et puis bon, c'est comme ça, je trouve ça parfois un peu ridicule, même. Mais après, ça te fait réfléchir si effectivement les garçons prennent toute la place dans la cour d'école et qu'après, il y a dans ce type de comportement, immédiatement, la genèse de ce qui se passera plus tard. Peut-être faut-il améliorer les choses. Peut-être.
Pascal, voulez-vous l'expérience d'un vrai directeur d'école qui n'est pas dans un fauteuil de cuir, dans un ministère?
Oui, j'entends bien, mais...
Je n'ai jamais vécu ça dans la dernière école.
Qu'est-ce que vous n'avez jamais vécu?
Mais je n'ai jamais vécu ce type de discrimination. La dernière cour de récréation...
C'est-à-dire que les garçons, ils ne prenaient pas toute la place dans la cour de...
Mais non, d'autant que si vous avez une équipe de profs et un conseil d'école avec des parents d'élèves...
Donc c'est une position idéologique, selon vous.
Mais c'est une position complètement absurde, et ceux qui ont pondu cette ineptie feraient bien plutôt de s'occuper du niveau scolaire lamentable des écoles primaires en France,
parce qu'on
est les derniers de la classe en Europe. Et la prochaine
Donc c'est de l'idéologie qu'on veut plaquer sur du réel, selon vous.
Mais tout à fait, puis alors je voudrais voir la tête de ceux qui ont pondu cette ineptie, je voudrais savoir s'ils connaissent ce qu'est une école primaire, et ce qu'est, pardon, je vais le faire exprès, ce qu'est un petit garçon de 6 ans qui au CP attend avec impatience la cour de récréation pour se défouler. Si on l'en empêche, l'heure et demie qui va passer après en classe va être insupportable.
On le met au potager.
Les enfants ont besoin de jouer.
On le met au potager.
Mais le potager, c'est très bien le potager. Mais en activité pédagogique avec l'enseignant, laissons les enfants faire ce qu'ils veulent. Et je vais vous dire une chose,
Pascal. Laissons les enfants faire ce qu'ils veulent, faites attention quand même.
Non mais en récréation, vous croyez pas qu'il faut leur laisser un petit espace de liberté ?
Je suis un peu d'accord avec vous, donc je suis ennuyé parce que je me fais l'avocat du diable, mais en même temps j'ai conscience que le monde doit bouger, donc j'essaye de prendre pour moi ma part de féminisme actif pour favoriser la vie des femmes. Et leur intégration dans la société.
Comme
si
quoi, tout
dire.
Est possible.
Bah, non, c'est agréable. Je vous rappelle que j'ai 4 filles, cher ami.
Je le sais, parce
que je vis entouré de femmes.
C'est un grand bonheur, j'imagine.
Bah, bien sûr, mais je suis sensible, forcément, à ces questions-là. Mais je n'ai jamais eu. Mes filles ne m'ont jamais dit. L'expérience de père que j'ai, jamais une fois une de mes filles est rentrée le soir en disant papa, la cour était prise que par des garçons qui jouent au foot. C'est jamais arrivé. Donc j'ai l'impression qu'on trouve parfois des sujets qui n'existent pas. Mais le monde bouge, je le répète. Donc faut bouger avec. 14h17.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Christophe est parti, il est directeur d'école primaire. Isabelle est là, bonjour, qui est professeur d'éducation physique en Chalon, en Champagne. Faut-il modifier les cours ? Bonjour Isabelle.
Bonjour. Ben moi, je rejoins vraiment le directeur d'école d'avant. Hein. Il faut arrêter de réfléchir à la place des autres, parce que si vous demandez aux jeunes spontanément ce qu'ils ont envie de faire, quand on regarde leurs activités spontanées, c'est pas forcément des activités, ils n'ont pas forcément des centres d'intérêt communs et pas forcément envie de consacrer leur récré à c'est la société. Hein. Ils ont envie de se faire plaisir à eux. Alors, on a testé pas mal de choses. On avait la cour suffisamment grande pour avoir à la fois un coin foot et tout le reste de l'espace. Mais le reste de l'espace, ils s'organisaient spontanément avec ce qu'ils avaient envie de faire. En plus, en collège, il y a quand même une grosse différence de maturité entre les filles et les garçons. En troisième, il y en a encore des garçons qui jouent au foot toute la journée, alors que les filles ont vraiment envie de faire autre chose. Donc... Alors, on a testé aussi. Vous m'entendez ?
Oui, je vous entends.
Ah,
je vous entends.
Plus rien. On a testé.
Non, mais je
ne
vous interrompais pas.
On a aussi testé le potager que nos intellos veulent introduire dans les établissements scolaires. C'est très, très bien un potager. Mais il faut m'expliquer ce qu'on va faire en récré en novembre, décembre, janvier, février dans un potager. C'est quand même la saison morte. Et ensuite, quand les fruits et légumes vont arriver à maturité, ce sera juillet, août, par les haricots verts, les tomates, tout ça.
Donc vous n'êtes pas très favorable, vous préférez... Mais vous qui êtes prof de PS, vous constatez que la cour est réquisitionnée d'abord par les garçons ?
Mais c'est pas qu'elle est réquisitionnée, il y a largement la place de faire autre chose à côté. Ça dépend de l'espace qu'on a déjà. Ensuite, oui, les gamins, il y en a qui ont envie de se défouler à toutes les récrés, ils ont envie de courir après le ballon. Les filles n'ont pas envie parce qu'elles n'ont pas envie de puer la sueur quand elles vont rentrer en classe. Il y a ça aussi. Spontanément...
Vous essentialisez, diraient les adversaires... du genre, vous essentialisez les filles et les garçons. Donc les filles veulent sentir bon et les garçons s'en moquent.
Ah mais c'est, bah non, mais enfin, faut arrêter de réfléchir dans les bureaux, faut venir sur le terrain. Il faut vraiment venir sur le terrain.
Non mais je m'amuse, mais oui, je m'amuse, Isabelle.
Quand mes enfants étaient en primaire, il y avait des activités communes, mais spontanées, sans qu'on ait besoin de leur organiser.
Non mais j'entends ce que vous dites. Isabelle, je suis obligée de vous couper parce que c'est le débrief qui arrive. Il est 14h23, je sais que c'est pas agréable et que j'ai le mauvais rôle, mais c'est l'ami Laurent Tessier maintenant.
Vous me présentez bien.
Comment ?
Ça donne envie.
Mais non, mais attendez, pour Isabelle, c'est pas agréable. Je suis en train de lui couper la parole. Vous n'y êtes pour rien, c'est cher vrai. Ami. Une révolte ? Une révolte ?
Ah, ça démarre.
Non, si, une révolution. Le débrief.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission. Par Laurent Tessier.
C'est aujourd'hui la journée mondiale consacrée à la maladie d'Alzheimer. 1 200 000 personnes sont concernées en France. Claude est venu témoigner au Standard. Sa mère a été touchée par la maladie.
J'ai eu ma mère à gérer et là, ça a été très, très, très difficile. Ça a duré, je dirais, une bonne dizaine d'années. C'était devenu ingérable. Elle se voyait en tant que jeune fille. Elle sortait, mais après, elle risquait de ne plus retrouver son appartement.
Et le quotidien était très éprouvant.
Elle m'appelait 10-15 fois par jour au téléphone. Et elle me prenait pour son frère. C'est-à-dire que pendant des années, elle prenait son calepin, elle allait à Claude et elle m'appelait à l'ODD.
Christelle Bardet, l'auteur du livre « Quand maman plantait des brosses à dents », elle était notre invitée au début de l'émission. Sa mère a été diagnostiquée à l'âge de 57 ans, un accompagnement qui aura duré 14 ans. Et Christelle souhaitait apporter un message.
Ce n'est pas qu'une maladie épouvantable. Oui, c'est très dur. Oui, c'est très difficile, mais on a aussi des moments heureux. Et jusqu'à la fin, où moi, ma mère était dans un état grabataire, absolument épouvantable, ne pouvant plus parler, nous avons eu des moments intenses et merveilleux et heureux comme jamais. Vous pouvez être malade d'Alzheimer et être heureux.
Un débat vous a fait réagir au Standard.
Faut-il dégenrer, quel horrible mot, dégenrer les cours de récréation?
Ah oui, ce terme de dégenrer vous perturbe, Pascal.
Faut-il dégenrer, le mot est pas très joli.
Même notre camarade Sophie Orange s'y met dans RTL Midi.
C'est atroce.
Bon, Christophe, directeur d'école primaire, un avis sur les cours de récréation dégenrés où on abandonne, par exemple, les buts de foot?
Je ne sais pas qui a pondu cette ineptie, mais je lui décerne la médaille d'or de la stupidité.
Eh bien, c'est dit. Sinon, une petite blague peut-être pour se quitter dans la joie et la bonne humeur.
Elle est dûment, Henriette, non?
Alors Pascal, je ne pense pas.
Elle est très bonne cette blague.
C'est pas Henriette Dumont.
J'ai même pas osé rigoler, c'est pour vous dire.
C'est cela, oui.
Et sinon, que va-t-on faire de Damien, notre réalisateur?
On le met au potager.
C'est bien noté, allez, débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. On se quitte avec la chanson qui rassemble les garçons et les filles.
Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux.
Jean-Alphonse Richard nous a rejoint, ça va être l'heure du crime. Je remarque qu'il y a un lieu encore où on ne parle pas de mélanger les hommes et les femmes, et c'est un lieu que connaît bien Jean-Alphonse Richard, si j'ose dire. Ce sont les prisons.
Les prisons, oui.
Les prisons, il n'est évidemment pas question un jour.
C'est préférable, je crois.
Oui,
pour diverses raisons.
Effectivement, ouais. Ce ne serait pas une bonne idée. Mais l'idéologie dominante n'est pas arrivée jusqu'aux prisons de mettre ensemble garçons et filles dans les prisons.
Pas encore.
Donc, à l'heure du crime, le programme,
aujourd'hui,
le violeur des parkings.
Oui, le violeur des parkings, Patrick Trémaux, mais surtout, la récidive qui est au centre.
Il est dehors, là.
Il est dehors, oui. Je vous dirai pas où, mais il est dehors. Oui. Ouais. Mais enfin, il a purgé, il a fait son troisième procès, il avait pris 20 ans, il est sorti, pas accueilli vraiment bien par nos concitoyens.
Il est sorti au bout de combien de temps?
Vous me posez une colle, il avait pris 20 ans, il a fait 16 ans de prison. Donc il est sorti, c'est un homme libre.
Bien sûr.
Mais qui a payé sa dette à la société, mais son nom est toujours l'illustration de cette récidive et cette impossible guérison.
Eh bien, nous vous écouterons comme tous les jours avec beaucoup d'intérêt et de plaisir. Et nous, on se retrouve demain avec Laurent Tessier, Damien Béchiot, que je n'avais pas salué, qui est à la réalisation aujourd'hui. On se dit rendez-vous demain.
Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.